En ce 2 février, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur au Temple et nous sommes avec l'abbé Philippe Beiter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous donner quelques indications concernant cette fête qui est célébrée très exactement 40 jours après Noël.
Effectivement, 40 jours après Noël, on suit ce que dit l'Évangile, bien sûr. Nous célébrons la fête que les Orientaux appellent l'Hypapanté, c'est-à-dire la fête de la rencontre, que nous appelons la fête de la présentation du Seigneur au Temple, qui précédemment portait aussi le titre de fête de la purification de la Bienheureuse Vierge Marie et qui, plus populairement, est nommée fête de la Chandeleur. J'imagine que, bon, vous devez manger quelques crêpes ce jour-là également. Donc voilà.
La chandeleur, ça vient du mot chandelle.
Candelaria, bon, on l'a aussi en espagnol, c'est lié bien sûr à la procession des cierges de la lumière qui accompagne dans cette fête.
Or, cette fête de la chandeleur, de la présentation du Seigneur au temple, dans la liturgie, en tout cas, ça commence à l'extérieur de l'église, normalement, au moins sous le porche.
Oui, à Rome, ces processions partent d'un sanctuaire vers un autre, un peu comme ce que l'on nous dit pour la procession des rameaux dans l'actuelle missel. Mais la procession est un peu plus tardive. Voilà, la fête de la présentation, nous la voyons naître au IVe siècle à Jérusalem. La procession n'apparaît qu'un siècle plus tard et la fête s'introduit à Rome au 7e siècle, donc dans les années 600. Donc, on va bien sûr célébrer divers aspects que les titres de la fête ont mis en lumière. Donc, bien sûr, la présentation de Jésus au temple, du premier-né, bon, ce que disent l'Exode, le Lévitique, voilà, le premier-né est consacré à Dieu. Et à travers cela, c'est toute la famille du premier-né, donc pour le Christ, d'un certain point de vue, la famille de l'Église, qui est consacrée à Dieu. Et il y a le rachat du premier-né à travers des sacrifices. Et pour ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens, mais voilà, ça peut être des petites colombes. Et c'est bien ce que Saint Joseph et la Vierge Marie vont offrir. Et si on regarde aussi l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple, on se rend compte en regardant le texte que voilà, il ne s'attarde pas aux vendeurs qui vendent des petites colombes parce qu'il sait que voilà, c'est l'offrande des pauvres et c'est cohérent bien sûr avec l'Évangile. Donc voilà, il y a cela, mais c'est la rencontre, l'hypapanté, avec Siméon et Anne, qui sont des Juifs, un homme, une femme d'un certain âge, qui ont vieilli dans la fidélité, qui font partie des Anaouim, des pauvres d'Israël, c'est-à-dire du fin spirituel d'Israël, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est la rencontre du Seigneur avec son peuple et se réalise la prophétie de Malachie qu'on lira comme lecture possible. Voilà, c'est-à-dire l'annonce de la venue du Seigneur dans son temple.
Avant le concile, cette célébration, cette fête du 2 février concluait le temps de Noël. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Une question un peu difficile parce que de fait, de temps de Noël, tant avant le Concile qu'aujourd'hui, il n'y en a pas eu vraiment. Bon, aujourd'hui, vous savez que le temps de Noël se termine avec la fête du baptême du Seigneur. Avant le Concile, bon, il y avait des fêtes qui s'étaient enchevêtrées, celle du surnom de Jésus, celle de la Sainte Famille. Mais qu'est-ce qu'on voyait? On voyait apparaître les dimanches après l'Épiphanie, qui allaient dépasser parfois le 2 février. Mais présenter cela comme conclusion, entre guillemets, de la Noël, dans la mesure où, à cause des 40 jours, cette fête était reliée au cycle de Noël. Mais de temps, vous n'avez pas de temps liturgique après Noël, ou de Noël, je veux dire, au sens où ce temps s'étendrait sur quand même beaucoup de semaines.
La tradition voulait quand même qu'on enlève la crèche après le 2 février, c'est ça ?
La tradition, voilà. Alors, vous avez aujourd'hui deux traditions. Voilà, la tradition, si j'ose dire, un peu stricte, qui est à la fin du temps de Noël. Donc, souvent à l'Épiphanie, d'autres fois à la fête du baptême du Seigneur, bien, enlève la crèche. Et une autre tradition, voilà, qui considère que ce temps de Noël, enfin que la fête de Noël plutôt, se prolonge le 2 février de la présentation du Seigneur, qui fait qu'on enlève la crèche, donc le jour du 2 février.
Qu'est-ce qui se passe au temple ? C'est vraiment un rite juif ? Il est inscrit vraiment dans la tradition juive ?
Il est inscrit non seulement dans la tradition juive, mais dans la loi. Voilà. Il s'agit de présenter le premier-né. Il s'agit aussi que la maman se purifie. On est dans le contexte de la purification légale, etc. Voilà. Donc,
La circoncision a déjà eu lieu.
La circoncision, en principe, a déjà eu lieu, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe entre les parents de Jésus et Siméon, puisque Jésus ne parle pas, il a 40 jours.
Et Siméon et Anne. Ça veut dire que ces deux personnages, qui sont des dévots du temple, des saintes gens, je crois que c'est Claudel qui parle des saintes gens, voilà, sous l'action de l'Esprit-Saint, reconnaissent dans ce bébé, il y a dû y avoir d'autres enfants qui ont dû être présentés au temple ce jour-là, reconnaissent dans cet enfant le Messie d'Israël. D'une part, Siméon annonce la destinée de ce Messie, qui sera pierre d'achoppement pour certains, de chute, et de relèvement, de résurrection, c'est le terme grec, pour d'autres, qui est la gloire d'Israël. Voilà, le salut. Ben voilà, le salut vient des Juifs, dira Jésus à la Samaritaine. Et aussi, qui est la lumière pour les nations païennes. Et saint Luc, qui nous raconte cet événement, est très sensible. C'est vrai qu'il est lui-même un païen converti, mais il est très sensible au fait que le Christ soit venu pour des païens. Ce qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, quand les Juifs refusent, des temps des Apôtres refusent Jésus, on se tourne vers les païens qui l'accueillent.
Dans cette liturgie du 2 février, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? On a parlé de la procession au début.
Oui, je crois que c'est ce qui est...
Avec la bénédiction des cierges.
Avec la bénédiction des cierges. Alors la procession, tout en nous faisant chanter donc le cantique de Siméon, qu'on chante aussi accompli et acclamé le Christ, lumière des nations. Voilà, les textes liturgiques évoquent le cheminement de l'Église grâce à la lumière de la foi vers la lumière impérissable. Et dans les deux formules de la bénédiction de la lumière, dans le fond, c'est pas tant des cierges que de la lumière, les cierges sont qu'un support de la lumière, on évoque donc cette lumière impérissable et donc, dans le fond, le destin du peuple de Dieu auquel l'humanité doit être associée, de vivre déjà dans la lumière du Christ, mais de bénéficier de cette lumière impérissable qui est la vision de Dieu et la communion des saints au-delà de la mort.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu superstitieux de faire bénir ces cierges ? Parce que je crois qu'avant, on les faisait bénir pour les garder dans la maison et on les allumait en cas d'orage, par exemple.
Oui, on pouvait les allumer en cas d'orage, on les allumait aussi pour veiller un défunt. Bon, là, on touche un thème de la religion populaire, mais qui rejoint un peu donc, l'homme. L'homme a des sens, il a besoin de voir, de toucher, de sentir, de goûter, d'entendre. Bon, donc, parfois, le fait de, on voit ça dans les baptêmes, quand on remet le cierge aux parents, mais ils sont contents. Bon, donc voilà, à travers peut-être ce rite-là d'allumer ce cierge, espèce de prière muette, comme beaucoup font quand ils mettent, quand ils savent pas s'exprimer dans la foi, quand ils mettent un cierge devant une statue à Vierge Marie ou d'un saint, une prière muette pour demander au Seigneur, ben mettons, oui, de les préserver du danger, ou pour exprimer quelque chose de l'espérance en la résurrection d'un défunt quand on l'allumait, donc lors de la veillée.
Dans l'évangile proclamé le 2 février, à un moment donné, le vieillard Siméon prophétise à Marie, à la mère de Jésus, donc qu'elle va être transpercée de la douleur d'un glaive.
Effectivement, Siméon le lui dit, là aussi est évoqué un peu le destin de la Vierge. Bon, là, très sûrement, l'Évangile nous dit qu'elle n'a pas toujours tout compris. Bon, l'Évangile nous dit aussi qu'elle a été emmenée, pour ainsi dire, raptée par la famille de Jésus parce qu'on pensait qu'il déraisonnait. Mais, donc, très sûrement que Marie a dû aussi souffrir du ministère public de Jésus, même si elle l'a vécu dans la foi. Hein. Mais bien sûr, c'est l'annonce de la compassion de la Vierge, du fait qu'elle se tient au pied de la croix et qu'à sa manière, elle participe à la passion du Christ en y consentant, en croyant dans la foi, ben que voilà, il sera le Seigneur dont le règne n'aura pas de fin, en croyant en sa résurrection, mais aussi au pied de la croix, en acceptant de Jésus, eh bien, non seulement d'être la mère spirituelle de Jean, mais la mère spirituelle de tous les croyants. Et donc c'est un peu la fécondité de la croix, mais une fécondité qui passe aussi par la croix.
Un grand merci à vous, Abbé Philippe Baïtia. On aurait pu aussi parler de la journée de la vie consacrée, instituée par Saint Jean-Paul II le 2 février. Mais le temps nous presse malheureusement, et donc nous saluons tout simplement tous les consacrés de notre diocèse, qu'ils soient religieux ou religieuses. Très bonne fête de la vie consacrée. Merci à tous et merci à vous, Abbé Philippe Baïtia.